Une militante afghane des droits de l'homme demande l'asile à Israël. Le président de l'État français, M. Emmanuel Macron, a inauguré le premier musée consacré à l'affaire Dreyfus, ce lieu de mémoire qui ouvre ses portes, qui a ouvert d'ailleurs ses portes jeudi dans les Yvelines, veut perpétuer le souvenir d'Émile Zola et de la fameuse affaire Dreyfus. L'Albanie devient le premier pays musulman à adopter la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. En France, à Strasbourg, musulmans, juifs et chrétiens réunis pour un match de foot interreligieux. En voici une bonne nouvelle. Je vous parlerai également de Georges Brassens et la chanson israélienne Georges Brassens qui aurait eu 100 ans aujourd'hui. Et Helnet et Millipol, une délégation israélienne de haut niveau invitée à Paris. Millipol Paris est un salon professionnel consacré à la sécurité intérieure des États, organisé à Paris les années impaires. Existant depuis 1984, il est parrainé par le ministère français de l'Intérieur. Et voilà, et nous poursuivons cette émission avec une chanson de notre amie Myriam Fuchs, Bells.
Sich der Mann sich in meine Kinderjahren pinkt wie ein Cholem kommt es mir vor wie seht euch du Stiebele Vos sagt amul gegelant Sie wächst noch dus Bäumele Vos ich hab verpflanzt Du stiebel mi sein an Bewachsen mit, machen mit Gruß Der alte Dach zerfällt in die Fenster nicht du kein Glut. Der Gammek ist grimmel zu beugen die Wand. Ich wollte schon sicher allein nicht der Kern. Der Gammek ist grimmel Zu beugen die Wände Ich wollte es schon sichern Allein ich der Kern Bells, mein Städtele Bells Mein Himmel wie ich hab Meine Kinder, sche Joren verbracht, sind ihr amul gewinn in der Bels, mein Städtele Bels, mein Heimel wie ich hab, meine Kinder, sche Joren verbracht. Jeder Schabes fleig ich, laufen nicht alle, gleich sitzen hinter der grüne Bäumele kicken auf den Teich Bells mein Städtele Bells mein Heimele wie ich hab meine Kinder schon Jahren verbracht Bells, mein Städtele Bells, mein Heimele, wie ihr Gott, meine Kinder, Senioren, verbracht. Sind ihr am Mul gewinnen, Bels? Mein Städtele, Bels? Mein Heimele, wie ihr Gott, mit alle Chaveren, verbracht. Jeder Schabes, ein Pfleger, läuft mit alle Jüngerlech gleich. Sitzen hinter dem grünen Bömele, kicken auf den Teich. Bess, mein Städtele, Bess, mein Heimele, wie ich hab. Meine kinderische Jahren verbracht.
C'était donc Myriam Fox avec Bells. Direction la Suède à présent, où la ville de Malmö tente de se mobiliser face à la montée de l'antisémitisme. Dans cette ville multiculturelle située au sud du pays, les politiques ont longtemps ignoré le problème avant de réagir ces deux dernières années, alors que la communauté juive s'est réduite depuis les années 70. Et le premier incident a eu lieu au mois de mars, après un cours de religion où la petite Rebecca, 12 ans, a parlé de sa foi en classe dans un collège de Malmö. Et une élève a lancé en arabe « Je la déteste, elle et son peuple dégoûtant », fin de citation. Peu après, l'adolescente de confession juive a découvert un tag près de son casier « Libérer la Palestine » et « Fuck Israël ». Quelqu'un a d'ailleurs craché sur sa veste et des élèves se sont mis à crier des slogans pro-palestiniens sur son passage. Contactée par ses parents, la direction du collège a affirmé qu'elle prenait l'affaire très au sérieux. Le médiateur contre les discriminations a d'ailleurs ouvert une enquête, mais à la rentrée, le harcèlement a repris. Je m'étais préparée à ce que nos enfants soient des cibles, mais je ne pensais pas que cela arriverait si tôt, avoue Esther, la mère de l'adolescente. Son mari, Yarin, est d'ailleurs né en Israël, et quand ils étaient plus jeunes, ils avaient évoqué l'idée d'aller s'y installer. Ce qui est arrivé à leur fille aînée les a décidés. L'été prochain, ils vont quitter la Suède avec leurs trois enfants pour aller vivre à Ranana, près de Tel Aviv. Il n'y a pas d'avenir pour nous ici, soupire Esther. C'est exactement le contraire que le Premier ministre social-démocrate Stefan Löfven espère démontrer en accueillant en octobre à Malmö un forum international sur l'antisémitisme intitulé Remember React. La conférence a rassemblé les représentants d'une cinquantaine de pays, dont le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président israélien, Isaac Herzog, par visioconférence. Le choix du port de 350 000 habitants situé au sud du pays n'est pas un hasard. En 1943, quand l'armée allemande a occupé le Danemark, c'est par Malmö que les Juifs danois ont fui. C'est là aussi que sont arrivés à bord des fameux bus blancs 15 000 survivants des camps de concentration au printemps 1945. Mais ces dernières années, l'image de Malmö s'est ternie pour être associée à un antisémitisme croissant et de plus en plus visible, malheureusement. Dans une ville où un tiers des habitants est né à l'étranger et beaucoup ont des racines au Moyen-Orient, chaque regain de violence entre Israël et la Palestine se traduit par de nouvelles menaces contre la communauté juive. Malheureusement, les responsables politiques n'ont pas voulu reconnaître le problème, regrette Frédéric Siratsky, le porte-parole de la congrégation juive. Premier adjoint au maire, Rocco Coursard, dont le Parti libéral gouverne depuis 2018 avec les sociodémocrates, lui donne raison. Par naïveté ou bien parce qu'il ne voulait pas voir, les dirigeants ont trop longtemps fermé les yeux. Et en 2012, l'envoyé spécial des États-Unis pour la lutte contre l'antisémitisme, Hanna Rosenthal, avait épinglé l'ancien maire social-démocrate, Ilmar Reepalu, pour son langage antisémite. Celui-ci avait notamment demandé à ses administrés juifs de se distancier publiquement de la politique israélienne. Ces 10 dernières années, de nombreuses familles juives ont donc décidé de partir pour aller vivre à Stockholm, la capitale, ou alors en Israël. Alors que la congrégation comptait 2000 membres dans les années 70, ils sont moins de 500 aujourd'hui. Le sentiment d'insécurité y est pour beaucoup, mais pas seulement. À Stockholm, la communauté juive est plus active, souligne M. Siratsky. À Malmö, la synagogue reste à moitié vide, même pour les grandes fêtes des Olesters. Et il y a quelques années, les élus ont fini par réagir. Enfin, en 2019, la ville a passé un accord de coopération avec la congrégation. Objectif, assurer la sécurité des Juifs, mais aussi rendre visible l'identité juive de Malmö. Les initiatives vont de l'aménagement d'un centre éducatif à l'intérieur de la synagogue à l'impression d'une carte répertoriant tous les lieux historiques en lien avec la communauté juive. Malmö est aussi la première ville de Suède à avoir nommé une coordinatrice chargée de la lutte contre l'antisémitisme à l'école. La juriste Myriam Katzin, de confession juive elle-même, a commencé par faire un état des lieux qui montre la complexité du phénomène, dont elle précise qu'il n'est pas spécifique à Malmö, mais global. Il y a le jargon antisémite dans les cours d'école, les théories de la conspiration alimentées par Internet et un sentiment d'exclusion des jeunes juifs qui disent avoir l'impression d'être les vilains petits canards. Un réseau d'enseignants a également été constitué en début d'année pour aider les professeurs souvent démunis face à l'antisémitisme en classe, mais aussi sur les réseaux sociaux. La réaction la plus courante est de faire comme si de rien n'était, parce qu'on ne sait pas comment réagir, constate M. Westerström à l'initiative du réseau. Il enseigne l'histoire, le suédois et la religion dans un lycée de Malmö. En 2019, il a suivi une formation au centre Yad Vashem à Jérusalem, qui accueille des enseignants du monde entier pour les aider à lutter contre l'antisémitisme. Les écoles de Malmö peuvent aussi faire venir le rabbin Moshe David Hakohen et l'imam Salahuddin Barakat, qui travaillent ensemble depuis 2017 au sein de l'association Amana. Notre but n'est pas de promouvoir le dialogue interreligieux, prévient l'imam. Notre objectif est d'instaurer la confiance et le respect entre nos deux communautés pour pouvoir vivre ensemble, explique le rabbin. Car construire des murs ultra sécurisés comme autour de la synagogue est peut-être nécessaire, mais cela ne prépare pas l'avenir. Fin de citation. Moshe David Hakohen prend soin de rappeler que l'antisémitisme n'est pas plus fort à Malmö qu'ailleurs, ni le seul fait des musulmans. Ceux qui le prétendent ont souvent un agenda islamophobe, argue-t-il. À côté de lui, l'imam opine et rappelle que l'extrême droite en Suède constitue une menace pour les deux communautés religieuses. Face à la mobilisation, Frédéric Zidarski se montre doucement optimiste. Je veux croire que la tendance peut encore être inversée. J'espère, en tout cas, et seulement que ce n'est pas trop tard.
De temps en temps, comme un enfant, ma pensée te dessine, Yerushalayim, de loin en loin. Tu n'es plus qu'un rêve qui tombe en ruine. Yerushalayim, elle ses émigrants, dont les yeux brûlants s'ouvrent à l'écho de ton nom. Au-delà les mers, souvent à travers d'hostiles et dures régions. J'étais venu des pieds nus à toi, Yerushalayim, pour me garder. Tu as cloué l'amour dans ma poitrine, Yerushalayim. Où sont mes joies? N'y a-t-il pas de bonheur sans épines, Yerushalayim? S'est acharné pour nous déchirer et le brouillard de nos pleurs a troublé l'azur. Elle rend un mur entre son cœur et mon cœur. Mais j'ai en moi l'espoir toutefois que l'amour encore renaissait. Vive encore pour
Et c'est toujours, bien sûr, avec le même plaisir que nous réécoutons Charles Aznavour, cette fois-ci, dans cette jolie chanson sur Jérusalem, Yerushalayim. Menacée par la Turquie, l'île de Chypre est en train de perfectionner son dispositif de défense. Pardon. Après avoir signé un contrat avec la France pour l'achat de 4 navires de guerre, Nicosie est en pourparlers avancé avec Israël pour l'acquisition de batteries du système Dôme de fer. Et selon l'agence grecque Sigma, qui a diffusé l'information, l'accord de principe a été donné et des experts militaires sont maintenant affairés à adapter ces batteries aux besoins défensifs spécifiques de l'île. Les autorités chypriotes ne cachent pas qu'il s'agit de se prémunir contre l'agressivité et les provocations turques. Chypre est également membre de l'alliance stratégique tripartite signée avec la Grèce et Israël sous la houlette de l'ancien Premier ministre, M. Benjamin Netanyahou. Alors, question, quels sont les pays qui accepteront désormais le fameux certificat de vaccination israélien? Les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont conclu un accord mutuel avec toute une série de pays de l'Union européenne et d'ailleurs qui reconnaîtront désormais le fameux Taf Yarok, le passeport vert, le certificat de vaccination israélien. Cette nouvelle disposition permettra à des Israéliens d'entrer librement dans des restaurants ou dans des lieux d'attraction et de culture en présentant uniquement leur certificat. Autre effet, les pays concernés qui exigent la présentation d'un certificat de vaccination pour entrer sur leur territoire accepteront le certificat israélien. Alors voici la liste des pays inclus dans l'accord. L'Italie, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la France, les Pays-Bas, l'Irlande, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, la Suède, la Finlande, l'Estonie, l'Hongrie, la Lettonie, Lituanie, Malte, la Slovénie, la Slovaquie, la Pologne, la Tchéquie, Chypre, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Albanie, Andorre, Suisse, les îles Féroé, l'Islande, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco, Macédoine du Nord, Norvège, Panama, Saint-Marin, Turquie, Ukraine et enfin le Vatican. Les pourparlers se poursuivent avec d'autres pays qui se rajouteront prochainement à cette liste, notamment les États-Unis, qui n'autorisent actuellement que les personnes vaccinées à entrer sur leur territoire. Ces accords sont réciproques, ce qui signifie que des Israéliens qui ont été vaccinés dans les pays mentionnés dans la liste pourront entrer sur le territoire israélien muni du certificat obtenu dans ces pays. Une seule réserve, le certificat de vaccination ne procure pas une garantie automatique d'entrée sur un territoire national. Si un pays décidait, par exemple, soudainement d'interdire l'entrée de citoyens israéliens sur son territoire, le certificat de vaccination n'aurait aucun effet. Sachez qu'une militante afghane des droits de l'homme demande l'asile à Israël. Kawsir Habibi, c'est son nom, qui dirigeait depuis 2 ans le ministère des Femmes sous l'ancien gouvernement afghan, est aujourd'hui une femme traquée. Dès le retour au pouvoir des talibans, elle a quitté son domicile et s'est réfugiée dans des coins reculés de son pays, vivant dans une crainte quotidienne. Cela fait maintenant 3 mois qu'elle change de lieu de résidence tous les 3 jours, en espérant que les talibans ne la retrouveront pas, car dans ce cas, son destin serait scellé. Depuis leur retour au pouvoir, les talibans, on le sait, traquent les femmes qui avaient des responsabilités sous le gouvernement précédent, ainsi que les militants des droits des femmes dont fait partie donc Kawsir Habibi. Se sentant en danger, cette dernière envisage aujourd'hui de demander l'asile politique à Israël. Femme brillante et courageuse, elle a mis sa vie en danger à de nombreuses reprises en défendant des femmes dans ce milieu misogyne. Elle dit aimer Israël et espère obtenir une réponse favorable des autorités de l'État juif. Durant son mandat au gouvernement, elle avait même tenté de favoriser l'établissement de relations officielles entre son pays, l'Afghanistan, et Israël.
שוקולד, שאני עצובה, הוא תמיד כזה נחמד, נכון שהוא ממך.
C'était bien sûr Sarit Khadat. Comme je vous l'ai dit en titre, le président français Emmanuel Macron va inaugurer le premier musée consacré à l'affaire Dreyfus. Alors peut-être une petite piqûre de rappel, c'était le 15 octobre 1894, le capitaine Alfred Dreyfus est arrêté au ministère de la guerre par le commandant Armand Mercier du Paty de Clam, désigné comme officier de police judiciaire. On l'accuse mensongèrement d'avoir dévoilé des secrets militaires à l'Empire allemand. Pour l'armée, Alfred Dreyfus est le coupable idéal, car de confession israélite et alsacien d'origine. Dès lors, un orage imprévu bouleverse le bonheur de la famille Dreyfus, celui qui avait vu l'Alsace frémir, celui qui avait vu la France vaincue, celui qui avait choisi de servir son pays, la France, allait pourtant être accusé de toutes les vilainies. Rarement plus ignominieux débordements d'injures, de calomnies, de mensonges, de lâches menaces ne s'abattirent sur un seul homme. Pourtant, toute sa vie, Alfred Dreyfus fut la loyauté même, mais tous les ennemis de la République, les félons et les mutins, allaient s'acharner contre lui. Et au plus haut niveau de l'État, des hommes politiques, des généraux descendirent si bas dans le mensonge et le crime. Celles et ceux qui participèrent à la condamnation d'Alfred Dreyfus, sachant qu'il était innocent, se livrèrent aux pires bassesses jusqu'aux années 1900. Ce que le journaliste autrichien Theodor Herzl traduit par ces quelques mots terrifiants, il a été établi qu'on pouvait refuser de rendre justice à un juif pour l'unique raison qu'il était juif. C'est paru dans le journal Die Welt du 15 septembre 1899. Car Theodor Herzl fut témoin de la parade de dégradation du capitaine Dreyfus le 5 janvier 1895 dans la cour de l'école militaire de Paris. Il vit tout ce cérémonial grotesque et il entendit les hurlements d'une foule assoiffée de sang et de vengeance. Elle hurlait « Mort aux Juifs ». Il sentit cette blessure, cette meurtrissure, cette déchirure. Il écrivit alors « Quand on voit un peuple si avancé, si hautement civilisé par ailleurs, prendre une telle voie, que pouvons-nous espérer d'autres peuples qui n'atteignent même pas le niveau de la France d'il y a 100 ans ? Il faut néanmoins détourner nos yeux de ces lâches contenteurs de Dreyfus et les reporter vers ceux qui, par leur courage et leur loyauté, luttèrent pour sa réhabilitation. Mais la route, on le sait, allait être très longue, terrible et parsemée de difficultés. Comment pourrions-nous, par exemple, oublier l'engagement de ces intellectuels admirables qui jouèrent dans le combat pour l'innocence de Dreyfus un rôle considérable par la force de leur voix et par leur talent d'écriture? Rappelons-nous simplement de ces quelques mots prononcés en février 1898 au milieu des clameurs hostiles par l'immense Émile Zola. Zola répète, martèle sa profession de foi. Dreyfus est innocent, je le jure, j'y engage ma vie, j'y engage mon honneur. À cette heure solennelle, devant ce tribunal qui représente la justice humaine, devant vous, messieurs les jurés, qui êtes l'émanation même de la nation, devant toute la France, devant le monde entier, je jure que Dreyfus est innocent. Alors, l'affaire Dreyfus, ce fut le choc moral de la justice contre l'injustice. Rarement tâche plus noble ne rencontra plus de difficultés que celle de la réhabilitation de l'officier injustement et illégalement condamné. Finalement, le 12 juillet 1906, le capitaine Alfred Dreyfus est réhabilité par un arrêt de la Cour de cassation. Le 22 juillet 1906, le commandant Alfred Dreyfus reçoit la Légion d'honneur à l'école militaire dans une cour voisine. 12 ans auparavant, lors de sa dégradation, le 5 janvier 1895, la foule haineuse hurlait « Mort aux Juifs ». 126 ans plus tard, l'antisémitisme est toujours abominable. Il est plus insupportable encore dans le pays qu'a été celui de l'affaire Dreyfus et de la rafle du Veldiv. C'est pour ça que c'est là où je veux en venir. Donc, Emmanuel Macron a inauguré le premier musée consacré à l'affaire Dreyfus. Ce lieu de mémoire a ouvert ses portes jeudi dans les Yvelines et veut donc perpétuer le souvenir d'Émile Zola dont je viens de vous parler et de l'affaire Dreyfus. Emmanuel Macron s'est rendu donc à Médan dans les Yvelines pour inaugurer ce premier musée consacré à l'affaire Dreyfus, installé dans la demeure d'Émile Zola, défenseur de Dreyfus et père du célèbre J'accuse, publié dans le journal L'Aurore. Ce lieu de mémoire qui a ouvert ses portes au public jeudi veut perpétuer le souvenir de Zola et de l'affaire Dreyfus, victime d'une machination judiciaire et antisémite datant de 1894. Le capitaine, comme je vous l'ai expliqué, avait finalement été réhabilité en 1906. Le musée présente plus de 500 documents, objets manuscrits, photographies, chansons, projections lumineuses, brochures, affiches ou encore tracts destinés à perpétuer la mémoire de cette fameuse affaire. C'est également jeudi que s'est rouverte la maison Zola, la majestueuse villa restaurée après 10 ans de travaux, acquise par Émile Zola en 1878 et où il a écrit nombre de ses plus grandes œuvres. La création de ce musée et la restauration de la villa en question ont été principalement financées par l'homme d'affaires français Pierre Berger, compagnon du couturier Yves Saint-Laurent, ainsi que la Fondation pour la mémoire de la Shoah et la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine. L'établissement recevra principalement des scolaires pour traiter des questions de l'antisémitisme, du racisme et de l'exclusion, du fonctionnement de la justice, du rôle des médias et des réseaux sociaux, de la place des intellectuels en démocratie. C'est ce qu'a expliqué donc au journal Le Parisien M. Louis Gauthier, le président de l'association Maison Zola Musée Dreyfus. L'écrivain journaliste engagé qui lança le célèbre J'accuse avait acquis cette maison en bord de Seine grâce au droit d'auteur de l'Assommoir en mai 1878. En 3 ans, il en avait fait un vaste domaine où il menait une vie rurale avec potager, ferme et serre. En 2002, pour le centenaire de sa mort, le président français Jacques Chirac avait apporté à Médan l'hommage de la nation à Émile Zola en insistant sur ses combats toujours malheureusement actuels.
La tête est un chemin vers ta lèvre. La tête cachée à ta oreille. Vers motim et ha'evdel. שבין לקחת ולקבל on t'immade la tête, la tête. Les galottes sodotes, mais c'est elle, les hâtir et tzva hakesher. כשהלב בך נצבט מכל חיוך, מכל מבט אתה נזהר, אתה יודע וחוץ ממך איש לא שומע עושה בין הדקויות וממלא שעות פנויות לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תלמד לתת לתת אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים לחיות עם כל השינויים לרקום איתה סיפור חיים ולעבור ימים קשים במצוקות בריגושים תמיד לדעת לוותר ואת הטעם לשמר לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תלמד לתת לתת ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תלמד לתת לתת לראות בתוך הנפילה שיש מקום לנחילה תמיד אפשר שוב להתחיל כמו יום חדש, כמו כרגיל לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תלמד לתת, לתת
Boaz Sharabi avec la tête. Sachez que le Parlement albanais a officiellement adopté la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, l'IHRA, faisant ainsi de l'Albanie le premier pays à majorité musulmane à le faire et à promettre de lutter contre les préjugés anti-juifs. La définition de l'IHRA, qui qualifie d'antisémite certaines formes de critiques à l'égard d'Israël, a été adoptée par de nombreux pays occidentaux, mais pas par des pays musulmans, en tout cas jusqu'à présent. C'est une bonne nouvelle que nous, les Albanais et les peuples des Balkans occidentaux, une région qui a souffert plus que toute autre partie du monde, des conséquences des vues et des attitudes ethnocentriques et théocentriques, nous rejoignons cette action émancipatrice de la civilisation contemporaine, la lutte contre l'antisémitisme. C'est ce qu'a déclaré le président du Parlement albanais, M. Gramos Ruchi. Toutes les nations qui, tout au long de l'histoire, ont protégé les Juifs de l'extermination et les soutiennent d'ailleurs aujourd'hui contre la stigmatisation, ont le droit d'être fiers. Mais nous, Albanais, avons davantage de raisons d'être fiers, car l'Albanie est le seul pays d'Europe où tous les Juifs ont été protégés et sauvés durant la Seconde Guerre mondiale. Notre patrie, l'Albanie, a servi de terre de substitution aux Juifs dans les moments difficiles, a-t-il ajouté. La décision d'aujourd'hui intervient donc avant le Forum des Balkans contre l'antisémitisme, organisé en partenariat entre le Parlement de la République d'Albanie, le mouvement de lutte contre l'antisémitisme et l'engagement juif pour Israël qui commence la semaine prochaine. Le vice-président exécutif du Congrès juif mondial, M. Robert Zinger, a exprimé l'espoir que davantage de nations musulmanes suivront les traces de l'Albanie. C'est ce qu'a rapporté le site d'information israélien Makor Rishon. Alors, chers auditeurs, le saviez-vous? À mon avis, non. Et l'histoire aime cacher certains de nos célèbres personnes juives. Ainsi, Marcello Mastroianni, la fameuse star du cinéma italien, était le fils d'une mère juive dont les parents étaient des juifs, donc ashkenazes, des Ukrainiens de Minsk. Il était le fils d'Ida. Ses grands-parents maternels se nommaient Kaimovitch et Solomovna, originaires de l'ouest de l'Ukraine. Et son père tenait une menuiserie. Voilà, et nous poursuivons avec Abraham Fried et Nigun for Shabbos. C'était donc Abraham Fried avec ses Nigun for Shabbos. Alors écoutez bien ce qui va suivre. 10 musulmans, 10 juifs et 10 chrétiens ont joué ensemble un match de foot interreligieux. Cela s'est passé ce dimanche 24 octobre dans le quartier de la Menau à Strasbourg en France. Une première dans la capitale alsacienne, initiée par le club international Menau Academy. Le stade de la Canardière du quartier de la Menau à Strasbourg a donc accueilli ce match de foot pas tout à fait comme les autres. En effet, les joueurs n'ont pas été sélectionnés pour leurs compétences sportives, mais bien leur appartenance religieuse. Chacune des deux équipes a été constituée à parité de joueurs juifs, musulmans et chrétiens. De plus, la victoire comptera moins que l'ambiance conviviale sur le terrain et la portée symbolique de ce moment qui se prolongera par un buffet et un temps d'échange amical. En ce moment, avec la crise du Covid et les protagonistes sont en train de diviser la France, on voulait marquer le coup avec un événement de solidarité. C'est ce qu'a expliqué Sid Chehaibi, le directeur sportif du club international Menau Academy et initiateur de ce projet. Depuis 2 mois, il s'investit d'ailleurs à fond pour concrétiser cet événement dont l'idée lui trotte en tête depuis près d'un an. L'objectif est simple, réunir les gens et créer des liens entre les différentes communautés religieuses présentes sur le territoire. Le club international Menau Academy compte 480 licenciés de tous bords, toutes confessions et toutes origines. Nous sommes beaucoup portés sur les actions sociales depuis 3 ans, assure son directeur, mais l'idée de ce match interreligieux lui est venue lorsqu'il a constaté que le club se situait à moins de 400 mètres de 3 édifices cultuels, à savoir une synagogue, une mosquée et une église. À la fin de l'été, Sid Chehaibi se lance donc, troquant son maillot contre un bâton de pèlerin. Il fait la tournée des lieux religieux de son quartier. « J'ai pris rendez-vous avec le rabbin, l'imam et le responsable de la communauté chrétienne », raconte-t-il. À chaque fois, il se sent très bien accueilli. Sali Oufaï est l'imam de la mosquée, Mendel Samama, rabbin de la synagogue, et Jean-Philippe Moret, conseiller municipal et membre de la paroisse paroisses protestantes ont été très réceptifs et tout à fait emballés par le projet. Chacun accepte volontiers sa mission, à savoir recruter 10 joueurs de leur propre communauté religieuse. Sid Chaibi ne demande pas que les recrues vivent toutes dans le quartier ni qu'elles soient affiliées à un club, mais qu'il s'agisse juste de gens prêts à participer à un moment de joie afin de mettre l'accent sur l'aspect festif plus que sur les compétences sportives. En outre, il souhaite des seniors de plus de 35 ans pour que les plus âgés s'emparent du terrain pour donner l'exemple aux jeunes. Ces premiers contacts sont suivis de plusieurs réunions durant lesquelles chacun peut rendre compte de ses propres avancées par rapport au recrutement. Mais avant tout, ces rencontres auxquelles 2-3 personnes dont le président de la mosquée de Strasbourg et un parent du club se rajoutent permettent à tous de mieux se connaître. C'était de très beaux moments d'échange et de fraternité, se réjouit le directeur d'International Maino Academy. Rapidement, les 30 joueurs sont trouvés, 10 de confession musulmane, 10 de confession juive et 10 de confession chrétienne, catholique, protestant et protestant évangélique. Ils viennent de différentes classes sociales et pas forcément de Strasbourg. De son côté, il reçoit lui-même pas mal de candidatures spontanées. Beaucoup de gens m'ont contacté pour participer, mais malheureusement, les places étaient déjà prises. Ce dimanche 24 octobre, c'était bien sûr Sid Chaibi qui a piloté toute l'organisation, accueillir les joueurs et leur expliquer comment le match va se dérouler. Un tirage au sort a défini la composition des deux équipes avec à chaque fois 5 personnes de chaque confession, dont 4 remplaçants. Mais les spectateurs ne distinguent pas ceux qui, parmi les joueurs, prient Dieu, Jésus ou Allah. En effet, les maillots spécialement réalisés avec un slogan évocateur « Foot et nous la paix » sont aux couleurs de la République, histoire de marquer le coup. L'une des équipes sera en bleu, l'autre en rouge et les arbitres en blanc. Des t-shirts aux couleurs de la France spécialement réalisés pour l'occasion, des t-shirts bleu, blanc, rouge. D'ailleurs, parlant d'arbitre, pas question de laisser planer l'idée d'un lien entre religion monothéiste et masculinité dominante. Là aussi, Sid Chaibi veille. Pour la petite touche, on met des femmes arbitres sur le terrain, des filles du club bien sûr, qui vont représenter l'autorité et gérer le match. En tribune, le directeur d'International Maino Academy, Esper du Monde, il y a eu un public nombreux représentant donc toutes les communautés religieuses participantes. En outre, il a sollicité maires, préfets, entités politiques et religieuses et assure que la plupart ont répondu présents. Tous ont été emballés, paraît-il, et nous ont félicités. On a eu de beaux retours. À l'issue des 90 minutes, tous ont pu se retrouver pour un temps d'échange tout en mangeant un morceau. Bien entendu, cette fois, knack et tarte flambée au lardon ont été bannis. Le choix du menu aussi a été débattu lors des réunions préparatoires. On a tranché pour de la nourriture cachère, compatible avec les 3 religions. Et c'est d'ailleurs un traiteur juif qui a géré la restauration. Enfin, des initiatives de ce genre sont encore très rares. Un match de foot interreligieux pour la paix s'est déroulé en 2014 à Rome, à l'initiative du pape François, et un autre en Île-de-France en avril 2019. Mais à Strasbourg, c'est une grande première, et Sid Chaibi voit déjà plus loin. C'est une première édition, mais on va bien sûr la refaire pour s'améliorer et élargir notre réseau, promet-il. Il prévoit d'ores et déjà d'intégrer d'autres confessions et d'autres religions à ses futures rencontres, ainsi que des personnes autres que religieuses, car le but, c'est bien de réunir les gens et de démontrer, par le plaisir du jeu, que vivre ensemble, se respecter et s'enrichir mutuellement, ce n'est finalement pas si compliqué.
ערב של שושנים נצאנה אל הבוסתן מור בסמים ולב הונה לרגלך מפתן ערב של שושנים נצאנה אל הבוסתן מור בסמים ולב הונה לרגלך מפתן לילה יורד לאט ברוח שושן נושבה אבא הלחן שלך שיר
שיר בלט זמר של אהבה לילה יורד לאט ורוח שושנה נושבה הבא הלכה שלך שיר בלט זמר של אהבה שחר הומה יומה רושך מהלת אל הלים פריך אל הבוקר שושנה מקטה פיינו לי שחר הומה יומה רושך מהלת אל הלים אל הבוקר שושנה בכתפינו לי לילה יורד לאט ורוח שושנה נושבה הבא הלכה שלך שיר בלט זמר של אהבה לילה יורד לאט זמר של אהבה זמר של אהבה
Toujours un plaisir de réécouter ce groupe Les Doudaïm avec Erev Shel Shoshanim et nous terminerons cette émission en vous parlant de Georges Brassens et de la chanson israélienne. En effet, le double anniversaire de la naissance du chanteur français né le 22 octobre 1921 et de son décès le 29 octobre 1981 est donc l'occasion de nous pencher sur l'influence qu'il a eue sur la chanson israélienne, notamment au travers de traductions et d'adaptations de ses chansons par certains des plus grands auteurs, compositeurs et interprètes israéliens. Dans les années 1950 et 1960 notamment, de nombreux écrivains et artistes israéliens se sont rendus en France et ont traduit ou adapté en hébreu de nombreuses œuvres françaises, de la littérature classique à la chanson populaire. Parmi les artistes israéliens qui ont chanté des chansons inspirées de Brassens en hébreu, Yossi Banaï fait figure de précurseur. Après un séjour à Paris, Yossi Banaï devint l'un des promoteurs de la chanson française en Israël. Et en 1969, il produit le spectacle « Il n'y a pas d'amour heureux », spectacle qui fut entièrement consacré aux chansons de Georges Brassens. Son disque « Yossi Banaï chante Brassens », sorti en 1974 et réédité par Et Artsy en 1997, reprend certains des titres les plus connus de Brassens, parmi lesquels « Le Gorille » ou encore la chanson pour l'Auvergnat ou le Parapluie. Ces chansons ont été traduites ou adaptées en français par des artistes, paroliers ou écrivains talentueux, tels que Naomi Shemer, Dan Almagor ou encore Yaakov Shabtai. Outre Yossi Banaï, il faut mentionner d'autres chanteurs aussi variés que Corinne Halal, qui a notamment interprété une version adaptée d'Au bois de mon cœur sous le titre Aïcham Balev, traduction d'Ehud Manor ou encore Chaval Burstein. Cette dernière a interprété la chanson Veyo Yogam, adaptation israélienne de La femme d'Hector de Brassens, qui a aussi été chantée par la troupe Lahkat Hanachal en 1958 sur des paroles de Dan Almagor. La chanson Veyo Yogam a connu, il faut le dire, un grand succès et a été reprise également par Yardena Aradzi et Ofra Chaza en 1979. Plus récemment, Shlomi Shabbat a interprété une version israélienne de Trompe la mort, traduite par Uri Manor. Alors, comment expliquer le succès non démenti des chansons et mélodies de Georges Brassens auprès de si nombreux auteurs et interprètes israéliens jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, je laisse la question ouverte aux suggestions de mes auditeurs, qui sont d'ailleurs les bienvenus.
Thank you.
Et c'est donc en compagnie du clarinettiste Györa Feinmann et de Bublitschki que se termine cette émission découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, moi, j'ai bien l'intention de vous retrouver la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Je vous rappelle au passage que cette émission est rediffusée le dimanche de 18 à 19 heures. Alors, je vous souhaite bien sûr des bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. La suite du programme sur les ondes de Radio Judaïka, ce seront bien évidemment les informations. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à Guy Chabas et Shabbat Shalom.
Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles. Également de la bonne musique et des invités.
אם תחכי לי בסופו של היום תחלום שעה בשעה אם תלכי ממני בסופו של דבר מה שנשאר יחסר השעה אם תקוותייך לא אדע לנחש אני לוחש לך יש בי דמעה אם תלכי ממני לסדר של אחר לא אבטר לך אולי התורה תקוותייך לא אמצע לעולם ואם כולם יגידו עזוב לא אפסיק ללכת בשבילך אהבה תקווה תהיה לנו טוב